y a quelques années, une jeune étudiante protestante d'Afrique du Sud a passé quelques mois à Annecy. Au culte, elle était très touchée, nous avait-elle confié, car ici, vous venez de votre propre choix. Dans son pays et sa famille, aller au culte n'était pas un choix, mais une obligation. Pour elle qui pouvait comparer les deux situations, venir librement changeait beaucoup de choses dans la façon de se retrouver et de louer Dieu. Ici, vous êtes tous là librement, ou presque. Je pense à quelques jeunes du caté qui sont encore guidés d'une tendre fermeté par les mains de leurs parents. Si on compare la situation avec celle d'il y a 50 ans, il y a moins de monde qui participe aujourd'hui à nos activités. Quoique, pour les cultes familles, ne boudons pas notre plaisir. Mais il arrive qu'en des jours moroses, quand l'automne revient, certains pasteurs et paroissiens fidèles se désespèrent. Tout se perd, nos temples se vident, il y a tellement d'autres distractions aujourd'hui. Peut-être. Mais moi, je préfère l'autre option, celle de me réjouir avec vous qui êtes là, régulièrement ou de temps en temps. Je choisis de considérer la personne qui vient et de ne pas me lamenter de l'absence des 9 autres. Dans notre texte d'évangile pour ce matin, le rédacteur de Luc raconte que 10 malades sont guéris par Jésus, mais qu'un seul s'en retourne pour le remercier. Nous pourrions facilement blâmer les 9 qui ne reviennent pas, mais je vous propose de suivre l'unique qui revient louer son Dieu en la personne de Jésus. Alors, juste, je m'arrête. Firmin et Auguste, vous pouvez rejoindre les enfants, hein ? Non, vous n'avez pas envie ? D'accord, je pensais que c'était pas fait exprès. Reprenons le fil de l'histoire. 10 lépreux viennent à la rencontre de Jésus. Ils marchent et font l'effort de se déplacer, puis ils crient, en reprenant les prières des psaumes qu'ils connaissent. Aie pitié de nous. Il faut savoir, et je l'ai appris en lisant des commentaires, qu'être atteint de la lèpre empêchait de parler fort. Leur cri prend d'autant plus d'importance. Les 10 sont déterminés. Jésus leur répond et que dit-il ? J'aime bien les surprendre comme ça. Ah oui, mais bien, c'est bien Antoine. Antoine, il a le texte biblique sous les yeux, mais tu as le mérite d'avoir lu, donc c'est très bien. Jésus leur demande : allez vous montrer au prêtre. Quand un lépreux était guéri, il devait aller se montrer au prêtre pour que les prêtres attestent de la guérison et ainsi lui donnent la permission de réintégrer la société de laquelle ils étaient exclus à cause de la maladie. Mais quand Jésus leur dit cela, les 10 ne sont pas encore guéris. Pourtant, ils choisissent la confiance, puisqu'ils vont comme Jésus le leur demande. Et c'est en allant, nous dit le texte, qu'ils sont guéris, purifiés de la maladie. La confiance. Je vous rabâche les oreilles avec ce mot, pratiquement dimanche après dimanche. Mais oui, quelle merveille que la confiance. La confiance, c'est la foi. Nous ne pouvons pas vivre sans confiance, avec Dieu, mais aussi avec les autres et pour nous-mêmes. Le contraire de la confiance, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous diriez ? La méfiance ? Qu'est-ce que ça peut être encore ? La peur. Vous avez raison. Le contraire de la confiance, c'est la peur, la méfiance, la défiance que la société voudrait nous transmettre. Mais résistons. Vivons par la confiance. Sans naïveté, mais sans peur, ni repli sur soi. Dans l'évangile, nous constatons que la parole de Jésus est efficace. Il parle et les malades sont guéris. La parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Le prophète Ésaïe nous l'explique déjà avec beaucoup de poésie. La pluie et la neige tombent du ciel. Elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre et la rendent fertile et font pousser les graines. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je souhaite. Et cette force traverse toute la Bible. La parole de Dieu vit concrètement. Pour la pensée juive du Premier Testament, il faut agir pour comprendre. Ainsi, Dieu enseigne qu'il ne sert à rien de chercher à tout comprendre, mais que d'abord nous devons passer à l'action, et alors nous comprendrons. Les lépreux imprégnés de cette culture ont sûrement eu plus de facilité d'aller, d'écouter Jésus avant d'être guéris. Je ne suis pas sûre qu'il en serait aussi facile pour nous aujourd'hui. C'est vrai que nous voulons souvent bien tout comprendre avant d'agir. Passer à l'action en toute connaissance de cause. Pourtant, cet encouragement biblique peut nous aider. Écoute ton Dieu, suis-le, et alors tu comprendras. Ce matin, le mouvement des 10 nous appelle à donner encore davantage notre confiance à ce Dieu vivant qui veut nous guider. Et à moins nous agripper à nos connaissances, à notre intelligence, à suivre plus facilement l'élan de cœur vers notre Sauveur. Voilà maintenant la deuxième partie du récit, où un seul sur les 10 revient pour dire merci. En grec, littéralement, il fait demi-tour. Dans le langage de la foi, on appelle cela la conversion. Comme en ski. Qu'est-ce qui fait du ski ici ? C'est tout ? Non, les adultes aussi, je vous demande. Ah, voilà. Alors, la conversion en ski, ça existe toujours ? Oui. C'est quand on fait comment ? On tourne les skis, on fait demi-tour, hein, on change de direction. C'est ça. C'est ça que fait celui qui est guéri et qui revient. C'est une conversion. Le grec dit encore, il se retourne en lui-même. Deux chapitres plus tôt, chez Luc, nous sont racontées les paraboles de la brebis et de la pièce perdue, et celle du père et des deux fils, que vous connaissez par cœur, le jeune du caté, le père et ses deux fils. Alors là, nous sommes dans un mouvement inverse. 10 sont guéris et 1 revient vers Dieu pour ce matin, à la place de... pour la pièce perdue et les brebis égarées, 10 ou 100 sont avec Dieu, un ou une est perdu, et Dieu part le chercher. C'est une autre façon ce matin de parler de l'amour de Dieu. En gardant la logique des 3 paraboles précédentes, Jésus irait ici chercher les 9 pour leur parler de son amour. Mais ce matin, l'insistance est ailleurs. En tous les cas, un revient, réjouissons-nous. 10 personnes sont au culte, alléluia. Réjouissons-nous pour celles et ceux qui répondent à l'appel. Cet homme guéri crie à pleine voix, se jette aux pieds de Jésus, gloire à Dieu, encore des paroles des psaumes. Cet homme n'oublie pas la reconnaissance. Demander de l'aide à Dieu est assez naturel, pour chacun de nous, je pense. Mais parfois, quand notre prière semble exaucée, nous manquons le pas supplémentaire de la reconnaissance. Vous connaissez tous la blague. Un monsieur est en voiture, il cherche une place pour se garer dans Annecy. Je crois que j'ai dû raconter en plus ici. Si, si. Et peut-être pas un culte famille, donc je vais vous la raconter. Donc il cherche, il n'y a pas de place, et en plus il doit aller au culte. Donc voilà. Et puis, donc il dit, Seigneur, allez, aide-moi, il faut que je trouve une place. Je t'en supplie. Tout d'un coup, une place. Il se gare. Seigneur, c'est bon, j'en ai trouvé une. Il n'y a plus besoin. Vous avez compris ? Ils n'ont pas compris, en fait. Bon, les catéchètes, vous leur expliquerez, hein ? Vous avez compris ? Ok. Voilà, c'est un paradoxe. C'est notre paradoxe. La gratitude de cet homme envers son Dieu est un appel pour chacun de nous à terminer nos prières, à lui dire merci. Et puis Jésus remarque que cet homme est un Samaritain, un étranger. La foi en Christ est universelle. Chacun, quelle que soit son origine, est appelé. L'amour de Dieu est pour tous. Et puis Jésus s'étonne, et les neuf, où sont-ils ? Ici, Jésus nous cherche, mais nous aussi, nous cherchons Dieu. Il nous arrive de nous étonner de son absence dans les moments difficiles de nos vies, ou de son inaction quand nous l'implorons. Alors nous aussi, nous reprenons le cri des psaumes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Et la nuit, je crie encore, mais je ne trouve pas le repos. Jésus répond. Le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose que l'on voit. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là-bas ». Le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est le verset de l'évangile de Luc qui a été lu tout à l'heure et qui suit tout de suite après notre texte de ce matin. « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé », répond Jésus au Samaritain. Les 10 sont guéris physiquement, mais lui est aussi sauvé par la foi, par la confiance et la reconnaissance. La foi a besoin de reconnaissance. Un commentateur de ce texte écrit qu'ici Jésus est plus qu'un guérisseur et l'homme plus qu'un miraculé. L'homme a vécu une rencontre en vérité avec son Sauveur. Jésus, Dieu fait homme, dit Dieu pour les humains. Il nous parle de Dieu. Pour le temps de sa venue, cette manière de dire Dieu pouvait se vivre en face à face. Mais aujourd'hui, c'est par la puissance de l'Esprit, à travers la Bible, à travers les rencontres, mais aussi la nature, que nous pouvons accueillir le Dieu de Jésus-Christ. Et ainsi dire un peu de lui, ou plutôt témoigner de l'expérience personnelle que nous avons de Dieu. Car Dieu, jamais, ne pourra se laisser enfermer dans des mots ou dans une église. En début de culte, nous avons échangé avec les enfants sur la façon de dire Dieu. Nos essais restent balbutiements. Quand je parle de Dieu, ce n'est déjà plus Dieu que je dis, s'amuser à nous partager notre professeur de théologie pratique. Quand je parle de Dieu, ce n'est déjà plus Dieu que je dis. Mais pourtant, ces tentatives sont justes. Elles sont l'appui de notre marche, le souffle de notre élan, le partage de l'amour. Hommes, femmes, enfants, nous avons la joie en communauté de nous retrouver pour parler de Dieu et laisser advenir la rencontre que, individuellement, uniquement, nous pouvons vivre. Soyons remplis de reconnaissance pour ce Dieu qui accueille, qui guérit et qui sauve. Soyons reconnaissants pour ces frères et sœurs qui partagent notre confiance et notre joie. Dieu est au milieu de nous. C'est vrai. Alléluia. Amen.